média francophone public. RTBF.
Ici Radio-Canada.
France Inter.
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Queyrade.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette librairie francophone estivale ouverte à toutes les diversités culturelles. Voici le sommaire de cette 8e édition de la 2e saison. Dans un instant, on vous emmène dans un quartier populaire de Montréal avec un photographe brésilien fasciné par cet endroit au point de lui consacrer un livre de photos. Nous serons avec deux grandes comédiennes, Brigitte Fossé et Catherine Salvia de la Comédie Française, portent une réflexion parfois mystique sur la vie. Vous entendrez le témoignage bouleversant du prêtre irakien Michael Najib qui a risqué sa vie pour sauver des hommes, mais aussi des livres. Et puis le club francophone accueille aujourd'hui le Suisse Jean Ziegler, auteur, sociologue et vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Bonjour Jean Ziegler.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vous a donné carte blanche pour cette séquence. Vous êtes très engagé contre la pauvreté et la faim dans le monde. Vous êtes venu accompagner Jean.
Oui, de Majed Nemé, qui est un intellectuel très prestigieux d'origine syrienne, ma foi, qui vit en France, qui était directeur, qui est directeur de la revue Afrikasi. Et qui, je l'ai invité évidemment d'abord, c'est quelqu'un de remarquable dans ses combats, mais en même temps, c'est la voix du Sud quand même.
La voix du Sud.
La voix des peuples du Sud, des peuples arabes, des peuples africains, qui ont rarement la parole.
Alors on va lui donner la parole aujourd'hui. Bonjour Majed Nemé.
Bonjour.
Vous êtes effectivement un célèbre journaliste franco-syrien, très respecté sur le continent africain, directeur de cette revue Afrikasi, respecté elle aussi, mais parfois controversé en Occident.
Ça dépend controversé par qui, bien sûr, parce que nous on est un journal de combat contre l'injustice, contre une certaine idée du droit international, des rapports entre le Sud et le Nord.
Bien, on va parler de ces sujets absolument passionnants, terribles aussi, mais nécessaires avec vous, Jean Ziegler, et avec Majed Nemé. De la musique aussi dans cette émission, avec notamment la chanteuse canadienne d'origine haïtienne, Mélissa Lavo, qui jouera un titre dans notre studio.
La librairie francophone, estivale, Emmanuel Queyrade.
Et on commence avec un nouvel épisode de notre série Un auteur, une ville. Après Nice, la semaine dernière, direction Montréal, avec un photographe passionné. Voilà, on est au cœur du Mile End avec Georges Camarotti. Bonjour Georges.
Bonjour, ça va bien ?
Bien, et vous ?
Très bien, très bien.
Alors ce quartier, il est emblématique ici à Montréal. C'est un quartier qui a eu des hauts et des bas, comme dit l'artiste Tristan Malavoie dans la préface de votre livre, Désaffection et Renaissance, lieu d'immigration. C'est un quartier très cosmopolite aujourd'hui, très varié.
Exactement, non, c'est un quartier qui en fait ressemble beaucoup à São Paulo, d'où je viens. Et là, depuis que je suis arrivé il y a 14 ans, c'est vraiment ici que j'ai trouvé comme les gens, les repères, un peu cette mélange qui m'a vraiment attiré pour faire ma vie ici, quoi.
Comment un Brésilien s'adapte-t-il à la vie canadienne et à la vie de Montréal?
C'est une excellente question parce que l'immigration, en tout cas, c'est pas quelque chose de facile. Il faut vraiment, en fait, oublier un peu qui on était. Il y a quelque chose là-dedans qui permet une liberté. Il faut vraiment à réapprendre pour pouvoir s'adapter finalement.
Quand vous arrivez de São Paulo, Georges, vous dites dans votre livre « J'avais beau être né dans une urbanité éclatée, rien de Montréal ne faisait écho à ce que j'avais connu ». Et c'est votre travail photographique finalement qui va vous permettre de vous intégrer dans la ville. Parce que vous faites des rencontres et à partir de là, effectivement, ici à Montréal, on déclenche des choses.
C'est exactement ça. C'est les gens, finalement, c'est l'autre. C'est aller à la rencontre, à la photographie m'a permis justement de pouvoir arrêter les gens dans la rue, de demander leur nom, demander qu'est-ce qu'ils faisaient, pour vraiment pouvoir, sous le prétexte de les prendre en photo, mais finalement, pour vraiment créer une rencontre.
Alors, on est devant un café Olympico, là. On arrive juste devant avec une tenture verte. Ouais. Et c'est un bar très important pour vous parce que c'est là que tout a commencé. On va y entrer, vous allez nous décrire les lieux.
Oui, c'est ça. En fait, c'est ici que, un magazine new-yorkais, en fait, m'a demandé une série photo. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des personnages habitait dans le Mailand.
Alors autour de nous, il y a des drapeaux à la gloire de Milan, à la gloire de l'Inter de Milan, de Naples aussi.
Oui.
Parce que c'est un lieu où on regarde des matchs de foot. Alors du coup, ça fait penser un peu au Brésil pour vous, c'est ça?
Exactement. Mais je pense que les Italiens, comme les Brésiliens, on a une grande passion pour le foot. Et mais ici, j'ai regardé plusieurs matchs, en fait.
C'est très étonnant parce que le plafond est complètement argenté. Il est peint d'une peinture argent et ça brille dans tous les sens. Et on a toutes les spécialités italiennes autour de nous.
Exactement.
On a vraiment l'impression d'être ailleurs.
Oui, mais c'est ça, en fait, qu'il y a quelque chose. Mais on rentre ici, c'est ça, c'est un monde à part.
Dans votre livre, Georges Camarotti, il y a des portraits d'habitants du Mile End. On y croise un journaliste écossais, une artiste bruxelloise, un cinéaste haïtien, un couple portugais des Açores. En fait, on fait le tour du monde. Et ce tour du monde, finalement, il a un lieu central, un point d'ancrage, c'est ce Café Olympico.
C'est exactement, et c'est ça que c'est là. Il y a quelque chose de très magique. Je me demande même comment les gens font pour travailler d'ici, parce que c'est bruyant, comme vous pouvez l'entendre. Mais les gens arrivent vraiment à produire, tu sais, des cinéastes qui vont s'asseoir, je les vois travailler, ils mettent des écouteurs, des casques. Deux, trois ans plus tard, on voit leur film dans un grand écran. On voit et on dit « Oh my God !» Donc tout ce travail-là a été fait à partir du Café Olympico. Quoi.
On va continuer à découvrir ce quartier. On va aller dans un endroit typique, très important, le lieu emblématique pour manger un bagel. Avec le grand soleil de Montréal qui illumine le quartier Mile End, Georges Camarotti est avec nous dans la librairie francophone. Voilà la fameuse maison du bagel. Bagel Saint-Viateur, c'est connu dans le monde entier, vous souriez dès que vous arrivez. C'est vraiment l'endroit absolu pour manger un bagel, c'est là.
C'est ça, justement, mais le bagel, il y a quelque chose de très montréalais hein, ouais. Dans le bagel ouais. Et tout. Et même dans d'autres villes, les gens essayent de recréer, mais finalement, ça ne marche pas trop.
On va rentrer pour voir.
Oui.
Pour sentir, surtout.
Oui, c'est tout.
Voilà, avec tous les bagels qui sont là, qui sortent du four. Four feu de bois, immense. Et une quantité incroyable de bagels qui sont disposés sur un présentoir en bois. Et la file d'attente, très longue.
Énorme, c'est ça. Donc, je pense que c'est... Quand les choses qui sont d'intérêt comme ça sont tellement spécifiques, les gens vont faire vraiment... Ça, c'est une chose qui m'étonne beaucoup à Montréal, que les gens sont vraiment prêts à faire la ligne pour attendre à peu près n'importe quoi.
Bon, il y a une odeur incroyable hein, de pain chaud agrémenté de sésame, hein, puisque oui. les bagels sont souvent enrobés de sésame. Et vous êtes devenu, finalement, un vrai Brésilien montréalais francophone.
Exactement, c'est ça.
Merci Georges Camarotti, merci beaucoup. Les Chroniques du Mile End sont publiées aux éditions Cardinal. C'est votre premier livre de photos.
Ma première livre de photos, exactement.
Merci, voilà, on est entouré de plein de coupures de presse ici dans la maison du bagel parce que c'est le 60e anniversaire. Merci Georges.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
À Montréal ou ailleurs.
Certainement, merci beaucoup.
Et à suivre dans la librairie francophone estivale, une rencontre exceptionnelle entre Brigitte Fossé et Catherine Salvia avec la participation de Franz-Olivier Gisbert. Nous allons parler de la vie en toute simplicité. Avant cela, voici le Colombien Yuri Buenaventura pour un extrait de sa version du jazz et la java. Bel été à tous sur votre radio francophone.
Entre la salsa y la java.
Yuri Buenaventura, le jazz et la java sur France Inter, la RTBF, Radio-Canada et sur RFI.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Guérad.
Brigitte Fossé et Catherine Salvia sont dans la librairie pour un livre inattendu, un ovni. La passion du verbe est paru aux éditions Onésime 2000, un petit éditeur du sud de la France, pas très loin de Marseille d'ailleurs. C'est un entretien à trois voix, vous deux, avec Marie Sénec, pasteur à Genève. C'est un peu fourre-tout, comme une discussion à bâton rompu. Le langage, l'écoute de l'autre, l'expression, les livres, le monde, tout y passe. Il y est très souvent question de religion aussi. Catherine Salvia, vous, la grande comédienne de la comédie française en horaire. Vous vivez à travers les rencontres et à travers le langage ?
Bien sûr, le livre, c'est l'ami, c'est un ami, c'est une passion aussi. S'il n'y avait pas les livres, voilà.
Vous dites que vous n'avez pas fait de sacrifice pour arriver à ce métier-là.
Oui, aucun
sacrifice.
Oui, absolument.
Aucun.
Non. Non.
Vous n'avez pas l'impression d'avoir fait des efforts particuliers ?
Non, j'ai cette chance-là. Voilà.
C'est vrai ?
Oui, tout à fait.
Alors que vous, Brigitte, vous dites avoir dû renoncer à une vie quotidienne normale.
Oui, j'ai pas été une femme normale, comme dirait François Hollande, parce que j'étais jamais là.
Depuis toute petite déjà en plus.
Depuis toute petite.
Le public vous a vu grandir depuis Jeux Interdits.
Oui, c'est ça. Et d'autre part, très souvent quand j'étais petite, on m'envoyait à Cannes chez mon oncle et ma tante. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait mon premier film. C'est à cause d'une absence de là où je vivais à l'époque, c'est-à-dire Tourcoing. Et après, quand j'ai eu 9 ans, on a quitté Tourcoing et on est arrivé à Paris parce que ma mère et ma tante et mon père pensaient que ce serait mieux pour mes études, etc. Ils n'avaient pas tort d'ailleurs parce que j'ai fait Hippocagne et Cagne avec passion. Après, j'ai commencé une licence de philo.
Catherine Salvia qui fait la grimace.
C'est pas comme nous.
Mais en même temps, si vous voulez, je privilégie le contact direct avec les gens dans la vie quotidienne. Je trouve que c'est la plus grande richesse qui puisse exister.
Oui, sauf que vous aimez dire bonjour à distance, comme Brassens.
Oui.
Vous racontez ça. Vous dites que vous avez l'impression d'être envahi par le public parfois et que ce bonjour, cette mise à distance, ça vous rassure un peu. En tout cas, ça vous sied mieux.
C'est pas une mise à distance, c'est au contraire une espèce de compréhension. Je vis ma vie lambda aussi. C'est-à-dire que je suis un peu déchirée entre les moments où je dois me produire, dire des grands textes, etc. Et les moments où je peux vivre normalement. C'est-à-dire, on ne peut pas être tout le temps en train de se produire ou de raconter ce qu'on fait. C'est impossible.
Vous portez un regard sur le monde un peu désabusé, notamment vous, Brigitte Fossé, un peu résignée. Il y a des choses que vous ne supportez pas dans la vie, que vous voyez comme ça au quotidien, mais en même temps, vous ne savez pas quoi faire.
Résigner, désabuser, c'est pas tellement non ce qui me caractérise.
Ben non, c'est pour ça, ça m'a étonné, moi. Parce que vous dites, par exemple, il y a des gens qui crèvent de faim, des réfugiés dans le monde entier, dont 1 sur 2 est un enfant, le monde des réfugiés pour les enfants. C'est absolument invivable, et nous, on est là à ne pas savoir que faire.
Oui, c'est-à-dire que je suis révoltée par ma propre inaction, alors que nous sommes tous lucides, nous écoutons toutes les nouvelles, il y a de très belles émissions sur les réfugiés, sur les gens qui ont faim. Et donc, si vous voulez, on est au courant de tout. On peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Mais qu'est-ce qu'on fait? On peut pas s'engager partout non plus, mais je pense qu'il faut choisir à un moment donné un truc secret pour lequel on participe à l'amélioration du monde. Je pense qu'on peut pas être heureux aujourd'hui si on participe pas tant soit peu à un tout petit peu d'amélioration du monde avec tout ce qu'on sait.
Catherine Salvia, vous êtes d'accord?
Il y a une publicité, je sais pas de quelle marque, à la télévision, où j'ai zappé comme ça. C'est un petit garçon qui met sa main comme ça, qui fait « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Bah oui, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Bah, c'est pas à nous. Bon, voilà, on peut donner un euro de temps en temps. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je veux bien faire quelque chose, mais voilà.
Et en même temps, je trouve que la grande liberté de la France, et qui est vraiment magnifique, c'est qu'il y a plein d'associations qui font des choses, et que quelque part, on a un peu l'impression que ce monde associatif, en posant toutes les vraies questions, a un peu bouleversé le monde politique, qui se pose moins les questions directes par rapport à ces choses-là. Mais en tous les cas, moi, je suis d'origine chrétienne. J'aime toutes les religions, j'aime tous les grands textes fondateurs. Et c'est vrai que mon origine chrétienne me rend très proche aussi des autres civilisations qui souffrent. Et en même temps, j'ai lu le livre de Romain Rolland qui m'a vraiment beaucoup touchée, qui s'appelle La vie de Ramakrishna. C'est un très très beau livre
qui raconte la vie d'un chrétien, d'un musulman et d'un hindouiste. Et ce Ramakrishna qui a vraiment existé est arrivé à la même extase, à la même luminosité au bout de ces trois religions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la religion n'est pas une façon de faire de la politique, et c'est une façon de se relier au ciel et à la poésie, c'est autre chose. Et c'est de celle-là que j'aime bien parler.
Et d'ailleurs, vous regrettez hein, qu'en Occident, on ait perdu comme ça la faculté de s'abandonner à la méditation et à la contemplation.
Voilà.
Alors qu'en Orient, ça se produit beaucoup
voilà.
plus.
Et moi, j'ai lu beaucoup de choses donc de l'Orient, japonaise, indienne, et je trouve qu'on a droit au rêve et qu'on a droit au rien. Je trouve qu'on a droit à être à un moment donné juste disponible, recevoir le ciel. S'il n'y a pas ces moments, il peut pas y avoir de renouveau et on peut pas y avoir de création.
Catherine Salvia, vous êtes croyante vous aussi, on le voit dans ce livre, c'est pour ça que c'est très étonnant, parce que vraiment vous parlez beaucoup de religion comme ça, sans bride, pas seulement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de filtre comme ça. Vous avez peur de la mort d'ailleurs? Vous pensez que c'est ça qui rend croyant, la peur de la mort, non?
Non, c'est horrible et je n'ai pas peur de la mort du tout. Alors là, vraiment, oui. Non, je suis prête.
C'est vrai?
Oui.
Ah oui, elle est formidable, elle a tout organisé à l'intérieur et à l'extérieur.
Non, mais bon, de toute façon on sait. On sait qu'on va partir. Heureusement, d'ailleurs, vous rendez compte le monde qu'il y aurait. Non
vous avez peur, vous, Brigitte, hein?
Moi, j'ai peur du jugement dernier.
Vous avez peur de la mort, vous le dites. Je l'ai lu.
J'ai peur de la mort parce que je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qui va se passer après. Personne n'en est revenu.
Vous êtes pas tranquille.
Moi, j'ai lu un bouquin sur le tunnel de lumière, etc.
Ouais, ça, franchement, arrêtez.
Oh oui. Tous ceux qui reviennent disent ça, en tout cas.
Bah oui, mais Catherine, oui, vous levez la main.
Non, parce que j'ai joué, Sœur Constance dans les dialogues des Carmélites, elle a un petit texte sur la mort, c'est extraordinaire.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Je n'ai jamais craint la mort, si peut-être il y a très longtemps, lorsque je ne savais pas ce que c'était. La vie m'a toujours paru assez amusante, je me disais que la mort devait l'être aussi. Oh, maintenant, je ne sais plus ce que je pense de la mort, mais la vie me paraît toujours aussi amusante. J'essaie de faire le mieux possible ce qu'on me commande, mais ce qu'on me commande m'amuse. Après tout, dois-je être blâmée parce que le service du bon Dieu m'amuse? On peut faire très sérieusement ce qui vous amuse, les enfants nous prouvent tous les jours, exactement comme on peut faire avec bonne humeur ce qui vous ennuie.
Catherine Salvia, merci. France et les
Bichisères. Qu'est-ce que c'est beau.
C'est Bernanos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bernanos.
C'est génial. Voilà. Mais la religion est quand même la plus belle des choses quand elle reste dans l'intime.
L'intime.
Elle devient vite.
Secret.
Voilà. Et c'est vrai, ce que vous avez dit, c'est tellement juste. Oui. Le mysticisme, dans toutes les religions, c'est pratiquement la même chose. Ils se reconnaissent. Et en même temps, la religion, ça devient la chose la plus hideuse dès qu'elle entre dans le champ politique. D'où il faut la rejeter en permanence.
Bien sûr. Terminons avec cette phrase de Brigitte Fossé qui dit qu'un amour peut durer toute une vie. Et pour vous, Catherine Salvia, l'amitié, c'est l'amour sans geste.
Oui.
Alors ça, j'ai pas trop compris. Bah pourquoi sans geste?
Parce que c'est crac-crac, il n'y a pas crac-crac.
Ah, crac-crac.
Bah oui, sans geste.
Donc c'est supérieur à l'amour.
Ah bah bien sûr, c'est bah bien sûr.
Bon, je vous laisse à ce nouveau débat. Oui. Merci beaucoup Brigitte Fossé, merci infiniment Catherine Salvia.
Ça n'empêche pas,
La Passion du Verbe est parue aux éditions Onésime 2000, une petite maison d'édition. Il faudra commander ce livre probablement à votre libraire indépendant si vous voulez le lire. Un livre inhabituel, presque bizarre, mais en tout cas avec une très belle rencontre entre ces deux grandes comédiennes. Merci à vous.
Marie Sénèque, qui est la troisième dame,
bien sûr, pasteur
à Genève, qui a un talent fou et qui connaît les poètes et les prophètes comme personne.
Et à suivre notre club francophone inédit autour de Jean Ziegler et de Majed Némé. Vous allez entendre des paroles qui vont fortement vous faire réagir. Le capitalisme, la pauvreté, les abus des grandes entreprises, les guerres honteuses, tout sera abordé ou presque. La librairie francophone estivale donne donc carte blanche à Jean Ziegler. Ce sera après le duo français Holidays et son nouveau titre On a déjà. Merci à vous de nous écouter à travers le monde.
Alors on cherche déjà l'erreur, ce qu'il y a à... sera toujours moins bien que ça. On a déjà vu la couleur, c'est ce qu'on pourrait devenir. On a déjà posé des fleurs, alors on cherche déjà les rares. Ce qu'il y a à redire sur ce foutu bonheur. On a déjà vu la couleur, c'est ce qu'on pourrait devenir. On a déjà posé des fleurs.
Holidays avec On a déjà, c'est le titre sur votre radio francophone.
Médias francophones publics. RTBF.
Ici Radio-Canada. France Inter.
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Le club francophone avec le grand Jean Ziegler aujourd'hui qui invite le journaliste franco-syrien Majed Nemé. Jean Ziegler, vous êtes auteur de nombreux livres sur le capitalisme, les relations avec l'Occident, le droit à l'alimentation, la faim dans le monde. Vous êtes actuellement vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Dans votre dernier livre en date, Le capitalisme expliqué à ma petite fille, vous affirmez être un ennemi du capitalisme. Vous dites cette phrase-là. Pourtant, c'est ce qui fait tourner le monde.
Non, en tout cas, il y a un sous-titre à ce livre, « Le capitalisme expliqué à ma petite fille, en espérant qu'elle en verra la fin
oui. ».
C'est vrai que je suis un ennemi total du système capitaliste qui ravage l'environnement et la vie des hommes, mais c'est vrai, vous avez raison, il y a un paradoxe qui habite ce système capitaliste. D'une part, certainement, c'est le mode de production qui est le plus dynamique, le plus créateur, le plus inventif que l'humanité ait connu.
Oui. Mais vous dites qu'il faut le détruire.
Il faut le détruire pour une raison très simple. Les richesses immenses qui ont été créées par ce système capitaliste ont été accaparées par une très mince oligarchie du capital financier mondialisé qui ont érigé une vraie dictature, qui est un vrai ordre cannibale du monde sur cette planète. D'une part, vous avez une immense richesse entre les mains de quelques-uns et dans l'immense hémisphère sud, par exemple, un enfant en dessous de 10 ans meurt tous les 5 secondes de faim. La faim tue un enfant tous les 5 secondes sur une planète qui déborde des richesses. Ouais. Et la FAO des Nations Unies, qui est dans les chiffres des victimes, dit que l'agriculture mondiale telle qu'elle est pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains, presque le double.
Donc ça, ce n'est pas acceptable
pour vous. Donc un enfant qui meurt de faim, aujourd'hui où nous parlons, est assassiné.
Bien. Vous avez carte blanche, Jean Ziegler, avec votre invité, le journaliste Majed Nemé, directeur de la revue Afrikasie. De quoi voulez-vous parler avec lui, puisque c'est vous qui décidez
aujourd'hui? Pas de cet ordre cannibale du monde et comment le détruire. Parce que ou bien c'est le capitalisme qui nous détruit, cette planète et les hommes qui y vivent, dans les quelques années qui nous restent, ou alors c'est nous qui brisons ce mur de l'oppression est changeant de monde et ouvrant la voie à un monde plus juste, plus heureux pour tous.
Alors, Majed Nemé, dans votre revue, vous le critiquez, ce capitalisme. Votre prédécesseur était un grand militant d'ailleurs, hein, Simon Mallet, qui a même été expulsé de France, en 1980, accusé de nuire aux intérêts et aux relations diplomatiques de la France.
Justement parce qu'il luttait contre la corruption, contre les dictatures, et pour un ordre plus juste, exactement comme le fait mon ami Jean dans tous ses livres. Parce que c'est vrai qu'il critique le capitalisme, mais il faut préciser de quel capitalisme il s'agit. Le capitalisme cannibale, l'ordre cannibale. Au nom du capitalisme, on fait des embargos, on freine les lois du capitalisme, du libre marché, et on provoque des millions de morts. Regardez ce qui s'est passé en Irak, ce qui se passe en Afrique. Et surtout, comme le dit si bien Jean, c'est évitable.
Est-ce que ça vous étonne, finalement, d'être contesté avec une revue comme celle-ci en France ou en Occident? Vous qui êtes né à Damas, en Syrie, qui avez connu la prison, est-ce que ça veut dire qu'en Occident, on ne peut pas tout dire dans les médias quand il s'agit de capitalisme, quand il s'agit de géopolitique?
Mais, tout à fait, parce que c'est-à-dire les méfaits de ce capitalisme cannibale ne sévit pas seulement contre les pays du Sud, mais il sévit aujourd'hui en Europe même, au cœur même du monstre, comme l'appelle Jean tout joliment. Ça va dans tous les sens.
Ça ne répond pas à ma question. Oui. Peut-on tout dire sur ce sujet?
On peut tout dire, bien sûr. On peut
Alors pourquoi dire, êtes-vous contesté parfois?
On est écouté, c'est ça le problème. On peut tout dire, bien sûr qu'on peut tout dire.
Jean Ziegler, Vous pouvez tout dire, vous, vous le dites en tout cas, même si parfois vous êtes critiqué.
Bah écoutez, j'ai eu
dans votre pays,
procès.
En Suisse, c'est ça.
J'ai eu 9 procès sur le Dauf, ouais. Intentés par des banquiers suisses, ouais. Qui m'ont attaqué sur mes thèses. Mm. Mais mon livre s'appelle Le capitalisme et ma fille, en espérant qu'elle en verra la fin.
Oui, oui.
Et je pourrais ajouter, moi, je veux voir la fin de cet ordre cannibale du monde qui est meurtrier, je l'ai dit tout à l'heure, un enfant meurt de faim tous les 5 secondes. Mais en même temps, absurde, parce que pour la première fois dans l'histoire du monde, le monde produit assez de richesses et assez de biens sur cette planète pour assurer une vie matérielle, digne, satisfaisante pour tous les 7,3 millions d'êtres humains que nous sommes.
Oui, c'est ce que vous dites dans le livre.
Or, c'est le massacre.
On a tout ce qu'il faut aujourd'hui. La planète n'a jamais été aussi riche.
Voilà.
Et malheureusement, il y a encore des enfants qui meurent de faim. Alors ça vous scandalise depuis très longtemps. Il y a même eu un film autour de l'un de votre livre, L'Empire de la Honte,
oui.
We Feed the World, si mes souvenirs sont bons.
Tout à fait. Et
vous dites clairement dans le livre, on ferme volontairement les yeux sur la famine qui tue des milliers d'enfants chaque année. On ferme volontairement les yeux.
C'est-à-dire, une chose est absolument certaine, la faim, ce massacre quotidien qui se déroule dans une normalité glacée au vu de tout le monde, peut être arrêté demain par la main de l'homme. La France, par exemple, est une grande, il y a beaucoup de défauts, bien sûr, comme tous les pays, mais une démocratie vivante. Mmh. Il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Demain matin, on peut arrêter la faim dans le monde, sauver des millions et des millions de
d'êtres. Comment, Jean Ziegler, avez-vous la solution?
Par exemple, en interdisant, simplement, la spéculation boursière sur les aliments de base, en évitant le déversement des surproductions européennes sur les marchés africains à bas prix, ce qui tue l'agriculture africaine, de désendetter les pays les plus pauvres. C'est absolument faisable, praticable, si les hommes se lèvent, si l'insurrection des consciences a lieu, et elle viendra. Et dans mon livre, je donne les armes pour cette insurrection, pour que soit brisé le massacre de la faim dans le monde et d'autres aspects de cette domination.
Majed Nemé.
Et Jean l'a très bien dit dans son précédent livre, les murs les plus puissants tombent par leurs fissures. Et Jean a contribué à provoquer des fissures dans ce système, surtout bancaire suisse, l'évasion des capitaux contre la corruption, les paradis fiscaux. On lui doit beaucoup.
Oui, on lui doit beaucoup. Et en même temps, quand on le lit, Jean Ziegler, on se dit que la Troisième Guerre mondiale est en cours. Et vous l'évoquez d'ailleurs dans le livre. Vous dites ça. Mais qu'est-ce qu'on fait à la place de ce système capitaliste, Jean Ziegler? À la place, comment on s'organise?
Bah, écoutez,
c'est ça que vont vous dire les grandes entreprises. Vous êtes très fâché avec Nestlé, par exemple, pour plein de raisons que vous expliquez dans le livre. Mais toutes les grandes entreprises vont vous dire qu'à un moment, ce sont elles qui font fonctionner le monde, qui font avancer justement l'économie, etc. Et elles vous contredisent à chaque fois.
Écoutez, j'ai deux choses à dire là-dessus.
Allez-y.
C'est une question qui est juste. D'une part, il faut détruire le capitalisme. On ne peut pas l'améliorer, le réformer, le contrôler, etc. Comme tous les systèmes d'oppression qui se sont succédés dans l'histoire de l'humanité, l'esclavage, on ne pouvait pas l'amender, le réformer. Ou bien vous prenez un homme pour un homme, égalité de l'homme, où certains sont marchandises, enfin, l'esclavage, le colonialisme. Il fallait le briser, l'éliminer, le détruire. Parce
donc,
qu'on pouvait pas avoir un peu moins
d'accord.
de colonialisme, etc. Même chose pour la discrimination contre les femmes, même chose.
D'accord, mais aujourd'hui, là.
Donc, il faut détruire le capitalisme avant qu'il nous détruit. Alors, vous me dites, qu'est-ce qui va se passer après? Nous portons, c'est une question très qui touche un mystère. Nous portons, nous, l'image du monde tout autre. Chacun veut un monde de justice, de bonheur pour tous, sous forme d'utopie. Le mystère est à quel moment cette utopie, cette volonté collective qui est en nous, souterraine dans notre conscience, s'incarne-t-elle dans un mouvement social.
Donc comme une révolution, c'est ça que vous voulez dire?
Bah, ça s'est fait le 14 juillet 1789.
En France, oui.
Où les idées de Rousseau, de Voltaire...
Donc ça, c'est possible à nouveau.
...sont devenues... Bah, bien sûr.
Vous croyez en cela, vous.
L'humanité est prouvée. Mais qu'est-ce qui va se passer?
Les Russes de l'histoire, qui aurait pensé que l'Union soviétique allait s'effondrer? Qui aurait pensé? Et là, avec leur pratique, vraiment, qui dépasse l'entendement, va se retourner contre eux si ça continue. Parce que les pays du Sud, finalement, peuvent être des partenaires si l'Occident, ou les États occidentaux, participent au développement humain et économique de ces pays. Ils auront plus de
bien
marché
sûr,
encore.
Bien sûr.
Mais sans sans provoquer des guerres et des famines et des maladies.
Alors vous alertez sur des choses, vous êtes alerteur finalement, je dirais, parce que sur des choses très intelligentes. Effectivement, la faim dans le monde avec un enfant qui meurt toutes les 5 secondes, c'est inacceptable, on ne peut pas tolérer ça. Et puis, plus proche de nous, je dirais malheureusement, avec la société de consommation qui nous incite à consommer, à jeter, à payer sans cesse pour des choses que l'on jette. C'est valable avec les vêtements, c'est valable, vous l'expliquez dans le livre d'ailleurs, avec les bas des jeunes filles, ça a commencé comme ça. Les bas qui filaient. Et puis il y a un scandale dont on ne parle presque pas, c'est le scandale du marché des minéraux qui sont utilisés pour nos nouvelles technologies. Et là, on a nos smartphones en poche, nos tablettes, et là, il y a des drames encore et des morts.
Oui, c'est juste.
Dites-nous,
vous touchez vraiment les problèmes essentiels. Et dans mon livre, le capitalisme expliqué à ma petite fille, en espérant qu'elle en verra la fin.
Et on a entendu ça.
Et moi aussi, j'aimerais voir la fin. Ouais, aussi,
mais ça fait deux fois que vous le dites.
Oui, j'aimerais voir la fin. Eh bien, par exemple, le téléphone portable est fait avec du coltan. Le coltan se trouve dans l'est du Congo, par exemple, dans des enclaves minières, avec des puits très étroits, dans une pierre friable. Et seuls des enfants au corps mince, entre 10 et 15 ans, peuvent aller dans ces puits. Donc, c'est des enfants qui pourront essayer que leur propre famille meure de faim dans les villages alentours, acceptent cette chose totalement horrible de risquer leur vie dans ces puits qui s'effondrent et beaucoup d'enfants.
Et des enfants meurent tous les jours, là encore.
Pour sortir ce coltan.
Et pour avoir ce qu'il y a dans cette tablette que j'ai dans la main. Voilà. C'est ça.
Pour avoir
qui fait fonctionner cette tablette.
Exactement.
Donc, c'est ça.
Exactement.
Donc, dans ma main, j'ai effectivement potentiellement des enfants qui sont morts pour pouvoir construire cette tablette.
Potentiellement, réellement, vous n'auriez pas ces tablettes dans la main, si des enfants n'étaient pas morts ou risquaient leur vie, etc.
Et Barack Obama a tenté de légiférer.
Vous avez tout à fait raison. Et Barack Obama, finalement, a fait une loi, Conflict Minerals, ça s'appelle le minerai du conflit, qui voulait empêcher la vente sur le territoire américain du coltan mis à jour par les enfants risquant leur vie, l'intégrité.
Donc on a voté la loi.
On a fait la loi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les grands trusts miniers qui règnent sur cette partie du monde, Glencore, Rio Tinto, Freeport, ont dit comment ? C'est contre la liberté du marché, nous on fait rien d'autre que maximaliser nos profits, c'est pas illégal, etc., etc. On fait une pression sur la première démocratie du monde, pas sur le Basse-Hollande, sur Washington. Et le président américain, maintenant Trump, a dû annuler ces lois. Voilà. Et l'horreur du massacre des enfants dans l'est du Congo pour le coltan, continue comme si de rien n'était, alors que nous pourrions, par l'insurrection de la conscience, arrêter ce massacre, donner la vie à ces enfants.
Il y a une question très jolie, je trouve, de votre petite fille dans ce livre, Jean Ziegler, qui vous dit « Les capitalistes ont-ils mauvaise conscience ?» Qu'est-ce qu'on en fait de la conscience ? Qu'est-ce qu'on fait de notre humanisme qu'on a tous, normalement ?
Oui.
Qu'est-ce qu'ils en font, les capitalistes, de cette conscience ?
Bon, il ne s'agit pas de dire Monsieur Brabeck, président de Nestlé, est méchant ou il est. Il ne s'agit pas de ça. Il
vous le dites un peu. Hein.
Il s'agit d'un système. Non, parce qu'il est relatif, c'est lire, écrire.
Oui, mais vous le dites bien. Mais vous le dites.
Oui, mais non, il n'est pas tout à fait antipathique. Mais enfin, il est l'expression d'un système de violence structurelle. Il y a une dictature des oligarchies, du capital financier mondialisé qui agit comme une structure autonome. Alors, pour la, vous me dites, que font les capitalistes pour se comporter de cette façon-là ? Parce qu'ils,
c'est pas la question.
Ils savent qu'est-ce qui se passe au Congo.
Qu'est-ce qu'ils font de leur conscience ?
Qu'est-ce qu'ils font de leur conscience ? Eh bien, ils l'anesthésient par une théorie. par une théorie qui l'essaie admirablement, qui est le néolibéralisme, qui dit c'est pas l'homme qui fait l'histoire, c'est la main invisible du marché qui obéit à des lois naturelles, à des lois naturelles. Nous, on peut rien faire.
On subit, quoi.
Du profit.
On subit. Et eux, ils nient.
Et on profite au passage.
Ils nient leurs responsabilités. Et comme ils voient jamais de leur vie, évidemment, les enfants qui meurent dans les puits du coltan, de Goma, ou près de Bukavu, etc., etc., cet aveuglement auto-organisé leur permet de continuer à détruire ce monde tout en ayant bonne conscience.
Bien.
Et c'est ça l'horreur qu'il s'agit de dénoncer, de changer et d'imposer la révolution sur cette planète.
Bien. On va terminer avec un peu de légèreté. On vous a demandé, comme à tous nos invités, on s'est dit on va pas faire d'exception. La vie, c'est ça aussi, de réfléchir à une musique et puis à une découverte culinaire et une plage quelque part dans le monde. On va commencer par la musique, votre musique, Jean Ziegler, pour l'été.
Pour l'été, c'est la mer de traîner.
De traîner. Écoutons un extrait.
La mer, qu'on voit danser le long du golfe clair, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie.
Version de 1946 de Charles Trenet. Ah, ça vous plaît, ça? Ça vous apaise un peu, ouais.
Bien que la mer est un cimetière aujourd'hui.
Ah oui. Oui, non, mais là,
33 000 réfugiés qui sont morts dans les derniers 10 ans. Enfin.
Non, mais oui, mais on peut pas rire dessus, mais c'est vrai.
La musique est magnifique.
Quelle est votre découverte culinaire qui a subjugué votre vie? Majed Nehmé.
Pour moi, c'est le taboulé.
Ouais,
c'est
taboulé une salade, libanais. Ouais, vous
libanais,
avez vécu
syrien,
au Liban.
Tout l'Orient, rien, ouais. Tout le Levant, c'est vraiment bon pour la santé, léger et frais, surtout avec cette chaleur.
Et sur une plage, quelque part?
Sur de la plage.
Laquelle
aussi. Voilà, c'est la plage à Djerba, par exemple, qui est très symbolique Djerba, ouais. Aussi. Parce que si on regarde l'Odyssée, avec cette île magique, là, quand ils ont voulu la conquérir, ils étaient heurtés à la gentillesse, à la générosité de sa population. Finalement, ils ont dû rebrousser chemin parce qu'il n'y avait rien à gagner que la gentillesse. Donc, c'était pas gagné.
Jean Ziegler, une plage pour vous?
Non. Non. J'aime la montagne.
C'est vrai.
Et j'irai cette année, comme toujours.
En bon Suisse, vous aimez la montagne.
Pas en bon Suisse, je suis un mauvais Suisse. D'abord, je ne veux pas être identifié assez au peuple, oui, mais pas en Suisse comme système.
Ah oui, oui, oui.
Corrompu, dictatorial, pas oligarchie.
Vous êtes reparti, Jean?
Non, pas du tout. Alors, je vais à Loche-les-Bains, que vous ne connaissez pas, non. Qui sont des bains romains thermaux dans les Hautes-Alpes, en face de Zermatt.
D'accord.
Et c'est une région absolument superbe.
Très bien.
Et
bien.
Puis, pour le manger, vous me dites.
Bah, si vous voulez, oui, un plat, oui, un petit plat pour terminer, oui.
Les filets de perche du lac Léman.
Ah, vous voyez?
Magnifique.
En bon Suisse?
Mais pas en bon Suisse, pas du tout.
Les bons Suisses mangent des filets de perche.
En nombre de goût.
Au bord du lac Léman, des hommes de goût.
En nombre de goût. Oui.
Bon, merci beaucoup, Jean Ziegler. C'était
merci
un grand plaisir de vous retrouver
merci
ici dans cette librairie francophone estivale. Le capitalisme expliqué à ma petite fille en espérant.
Qu'il en verra la fin. Voilà. Ou que
Oui, vous aussi, tout le monde espère voir la fin. C'est aux éditions du Seuil. Et Majed Nehmé, vous êtes toujours directeur de la revue Afrikazie.
En ligne, cette fois-ci.
En ligne, exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Voici la chanteuse canadienne d'origine haïtienne, Mélissa Lavoie, à présent, avec un titre interprété dans les studios de la librairie francophone, extrait de son dernier album, Mélissa Lavoie.
Mwen konen yon kote nan fon wè, yon kote jou ale ou arete. Mwen konen yon kote jout nan wè, yon kote jou ale ou arime. Genye lè, genye rive koule, genye fle, genye bè. Danser yon valou ak
Lavo en version acoustique dans les studios de la librairie francophone avec Nan Fambois.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Kérad.
Bonjour Michael Najib.
Bonjour.
Vous êtes donc un prêtre d'Irak, un chrétien d'Orient, comme on dit aujourd'hui en Occident, chrétien d'Orient persécuté. Vous racontez dans un livre paru chez Grasset votre résistance face à Daesh en protégeant les textes anciens, les manuscrits chrétiens que vous avez sauvés de la destruction. Vous écrivez « Ces textes anciens sont mes enfants ». Et vous avez numérisé 8000 manuscrits, 1 million de pages.
Oui.
Pourquoi avez-vous fait
beaucoup
ça ?
Plus. En fait, parce que j'aime beaucoup les livres et j'aime beaucoup l'être humain. Et c'est ça qui m'a invité à sauver les uns et les autres devant cette invasion brutale de Daesh qui est vraiment une accumulation du passé, d'une idéologie néfaste, qui ont essayé vraiment de frapper cette population deux fois millénaire déjà sur place, en parlant seulement des chrétiens, mais parlant aussi d'autres communautés yézidis qui sont là depuis 3000 ans avant Jésus-Christ. Ouais, ouais. Plus que 8000 hommes déjà assassinés complètement, guillotinés, et 4500 femmes réduites à l'esclavage sexuel et vendues dans les marchés, même avec une liste de prix de femmes à vendre. Mais c'est incroyable. Donc devant tout cela, on peut que sauver les uns et les autres.
Vous avez donc dû quitter Mossoul, votre ville natale, puis vous vous réfugiez à Karakoch. Daesh est aux portes de la ville et vous dites qu'il y a plusieurs alertes comme ça jusqu'au jour où cela arrive. Et quand ça arrive, il faut partir, il faut fuir, mais vous n'avez pas peur et vous hésitez même à partir, vous.
Absolument, je ne voulais pas partir et c'est toujours... personnellement, je ne crois pas au hasard, je crois à la providence. On ne meurt qu'une fois et on vit qu'une fois. Et puis, être proche justement de ses enfants, c'est important. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai des livres. Ouais. Et j'ai des milliers d'enfants également spirituels que nous aidons perpétuellement. Donc, avoir peur, c'est faire peur aux autres aussi. Mmh. Mais il faut leur donner du courage.
Bon, vous finissez quand même par quitter Karakoch en catastrophe. La voiture chargée d'hommes et de livres, vous partez sur la route vers le Kurdistan, vers la ville d'Erbil. Vous mettez 4 heures pour faire 40 kilomètres. Mmh. Et au détour d'une colline, vous tombez dans une embuscade. Il y a les hommes de Daesh qui sont là, qui attendent justement le convoi d'exilés. Ils tirent sur toutes les voitures et l'ordre, c'est tuez-les tous.
Absolument. Et cette embuscade, je l'ai vue moi-même et c'est le seul moment, je crois la seule fois où j'ai commencé à trembler de peur. C'est pas pour moi, c'est pour les milliers de gens. Rien que les chrétiens, il y avait 120 000 chrétiens qui ont quitté Mossoul et la plaine de Ninive durant 24 heures, imaginez. Ils ont tout laissé derrière eux, ils ont gardé un œil vers le passé, vers l'arrière, en pleurant, et l'autre vers l'avenir, l'inconnu. Et moi, j'ai des enfants, des familles, des grabataires dans ma voiture et aussi des manuscrits.
Des livres, oui.
Des vrais manuscrits qui remontent au 12e, 13e siècle. Donc,
Et vous pensez à sauver ces livres alors que tout le monde se fait tuer autour de vous. Ça, c'est...
Absolument.
Et on vous dit, mais tu es fou, tu vas nous faire tuer avec tes livres.
En tout cas, on m'a dit des gros mots, laisse-la tomber, j'ai mérité, effectivement. Ouais. Parce que les gens, il faut penser, et j'ai pensé aux deux en même temps, parce que on peut pas sauver l'arbre sans sauver ses racines. Mmh. Et sauver un arbre sans les racines, il meurt. Donc c'est important aujourd'hui de sauver tous les deux. Et cette peur-là qui m'a donné beaucoup de courage, et j'ai vu même Daesh dans mes propres yeux, ce petit matin à 5h30 du matin, mais ça nous a donné encore beaucoup plus de courage d'aller vers l'avant.
Vous assistez à des horreurs absolues, Mickaël Najib. Vous vivez la peur dans chaque endroit, hein, à chaque instant. Même si vous dites ne pas avoir peur, c'est quand même comme ça, hein, ça tient au corps. Où est Dieu dans tout ça?
En tout cas, Dieu est dans le cœur de l'être humain qu'il a créé.
Et malgré tout ce que vous avez vu.
Absolument, absolument. Et moi, je suis même contre qu'on tue Daesh. Je suis contre qu'on tue les assassins, les criminels. Parce qu'à l'intérieur de chaque être humain créé, il y a une pureté, il y a une perle qu'il faut la chercher. Et s'ils deviennent criminels et agressifs et contre l'humanité, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui les a conduits ou poussés à le devenir. Donc, il faut aider ces criminels, ces gens-là, pour se libérer par l'éducation et la culture.
Je vais vous poser une question, mon père, qui n'est pas une provocation, mais qui va peut-être vous paraître maladroite. Mais c'est une vraie interrogation. Ne pensez-vous pas que c'est la religion qui est en train de détruire l'humanité? Une fois encore, elle fait des victimes, et peut-être que cette fois, c'est toute l'humanité qui va périr à force. En raison des barbares qui utilisent la religion pour leurs massacres, de ceux qui décident d'éradiquer une communauté religieuse, la Shoah, la Saint-Barthélemy, j'en passe. Et aussi les croyants qui se défendent. Presque toutes les guerres et tous les massacres ont une origine religieuse.
Absolument, et c'est ça qui m'a interpellé, c'est ça qui m'a laissé mon travail, ma vie de jeune à 24 ans, de devenir prêtre, pour se consacrer justement à combattre cette idée que la religion doit être quelque chose de pur, d'humain, pour bâtir et assurer l'avenir de l'humanité, et non pas le contraire, le tuer. Et ce qui m'a intéressé, c'est avant tout l'être humain, parce que chaque être humain, il naît comme humain avant qu'il soit chrétien ou musulman ou juif ou athée ou non-religion. Et alors, la religion doit être là pour honorer l'être humain et donner un sens pour sa vie, parce qu'on n'est pas là au hasard. Chaque être humain a une vocation. Et cette vocation, il faut la découvrir. Et la religion, malheureusement, toutes les guerres, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes ou juives ou autres, déjà, même sans religion, il y avait déjà des barbares qui se...
Même aujourd'hui.
Et puis même à l'époque des Gaulois, ils se battaient, tous ces Assyriens n'avaient pas de religion non plus. Ils se bagarraient, les Grecs, les Latins, donc... Bon, alors là, c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faut aller au-delà des religions pour découvrir l'humain, et à ce moment-là, la religion vient pour honorer cet humain s'il lui donne un sens pour vivre.
Arrivé à Erbil, vous construisez un véritable arche de Noé avec les réfugiés en aménageant deux bâtiments. Des bâtiments qui sont en cours de construction, et vous allez nommer ces bâtiments la vigne et l'espoir.
Oui. Au fait, la vigne, parce que pour moi, c'est le Christ, je suis la vigne et vous êtes les sarments. Et puis l'espoir, chaque être humain doit avoir l'espoir, sinon on meurt. Et c'est important aujourd'hui de vivre tous ensemble. Et j'ai mis dans cette arche de Noé, les chrétiens, les yézidis, de plusieurs confessions ensemble pour partager cette expérience déjà de souffrance, mais partager aussi l'espoir ensemble.
On va terminer avec la citation d'un des passages. Vous dites « L'éducation, c'est notre arme la plus efficace pour combattre Daesh qui a choisi l'obscurantisme ». Merci beaucoup, Mickaël Najib.
Merci infiniment. Merci à vous tous.
Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci beaucoup Jean Ziegler.
Merci.
Majed Némé, merci beaucoup. À très bientôt à la rédaction Jean-Philippe Véret de France Inter en France avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada et de RFI. À la réalisation Cyril Pascal et Étienne Bertin avec Henri Bérec. La semaine prochaine, pour la dernière de la saison, nous irons dans les mythiques ateliers de la Maison Christian Dior avec Francis Huster. Nous serons avec la comédienne Juliette Binoche et le poète Christian Bobin. Et le dernier club francophone sera consacré à l'Académie française avec une rencontre inédite et exclusive. Grosse surprise. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.